C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
Durant l'été 1958, la première radio maritime européenne fait son apparition sur les ondes. Il s'agit de Radio Mercure, qui s'adresse au public danois. Deux autres stations s'installeront, Radio Veronica, au large de la Hollande, et Radio Nord, en face de Stockholm. Ces radios rencontrent un incontestable succès populaire et ne tardent pas à se développer. Radio Mercure inaugurera des programmes en suédois et plus tard deux programmes parallèles en danois afin de couvrir tout le pays. Sous le nom CNBC, Radio Veronica lancera un éphémère programme en anglais. Les autorités des trois pays concernés tentent bien quelques manœuvres pour faire taire ces stations, mais sans grand succès. Les pressions diplomatiques sur des pays tiers qui portent assistance à ces radios ou la restriction des communications entre les navires et la terre n'entament pas la détermination des promoteurs de ces nouvelles voies des ondes. Si les bateaux avaient d'abord été pensés pour accueillir uniquement les émetteurs, peu à peu, ils vont commencer à servir de studios. Ce sera notamment rapidement le cas pour Radio Nord. Mais au printemps 1962, les gouvernements norvégiens, danois, finlandais et suédois durcissent le ton et s'unissent pour promulguer une loi régionale interdisant tout soutien ou participation à la diffusion d'un programme radio ou télé depuis la mer. Radio Nord sera la première à ne pas braver la loi et cesse ses émissions le 30 juin 1962. Le 10 juillet, c'est Radio Mercure Ouest qui devient silencieuse. Et le 31 juillet, Radio Mercure East arrête son émetteur à minuit. Toutefois, une station discrètement lancée le 6 mars 1962, Radio Sid, décide de braver la loi et continue à émettre.
Hertz rent a car. Here, MB.
Let Hertz put you in the driver's seat. Let Hertz take you.
Det är bekvämt och enkelt att hyra en bil för alla tillfällen, till exempel affärsbesök, semesterresa, biltur på den lediga dagen, weekendtripp. Kort sagt, hyr en Hertz-bil.
By the hour, by the day, by the week, or any way, just let Hertz put you in the driver's seat.
Vart ni än far, hyr bilen hos Hertz Rent-A-Car.
Britt Wadner fut une célèbre mannequin suédoise dans les années 40. En 1959, elle prête sa voix pour quelques publicités passant sur le programme suédois de Radio Mercure, Scan Radio Mercure. Rapidement, elle devient directrice commerciale de la station. En janvier 1962, elle rachète les parts de l'ancien directeur dans cette radio. Mais elle veut se libérer de la tutelle de Mercure et créer sa propre station. Les mésaventures du Cheta, le bateau historique de Radio Mercure, pris dans une tempête au début du mois de mars, vont lui en donner l'occasion. Elle rachète le navire et le 6 mars 1962 à 18h, Radio Sid débute des essais de transmission. Le navire est ancré dans les eaux internationales au sud de la Suède et ses émissions sont facilement entendues dans la grande ville de Malmö et sa région.
God afton, kära lyssnare. I bakgrunden hör vi just nu Lill-Babs som förtäljer oss om att hon är en tuff brud. Och en tuff brud, Det är väl också jag som sitter här ute på båten ensam ikväll och håller vakt över pojkarna. Och ja, det är Conny. Vi låter väl Lillbabs fortsätta med sin pigga glada skiva om en tuff brud.
Det går briljant. Malettvokal på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ. Och jag har gjort mitt val. En tuff brud i snyggt fodral.
Och det är en tuff brud.
Lorsque la loi scandinave interdisant la participation à la diffusion d'un programme radio depuis la mer est votée, au printemps 62, Britt Wadner fait savoir que sa station poursuivra ses émissions. Et de fait, le 1er août, au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi, Radio Sid émet toujours sur la bande FM. Le 13 août 1962, Radio Mercure tente de revenir sur les ondes depuis l'un de ses deux bateaux, le Lucky Star. Mais deux jours plus tard, le navire est arraisonné par la police et conduit dans un port pour être mis en fourrière. Le célèbre quotidien britannique The Times se fait l'écho de cette saisie. The Times, vendredi 17 août 1962. Un bateau radiopirate saisi, la police danoise monte à bord. De notre correspondant, Copenhague, 16 août. À l'aube, des policiers danois sont montés à bord du petit navire Lucky Star, à partir duquel Radio Mercure, une station de radiodiffusion commerciale pirate, opère. Depuis son mouillage dans les eaux internationales, entre le Danemark et le sud de la Suède, le navire a été remorqué jusqu'au port de Copenhague. L'équipage de 5 personnes n'a pas été en mesure de produire un certificat du port d'immatriculation ou de la nationalité du navire. La saisie a été ordonnée par un tribunal. Depuis 1958, Radio Mercure défie le monopole de l'État danois sur la radiodiffusion en utilisant deux ou trois navires ancrés dans les eaux internationales près de la côte danoise pour produire des programmes quotidiens de publicité et de divertissement. Depuis le 1er août, une nouvelle loi a rendu criminel le fait pour les citoyens danois de participer ou de soutenir par la publicité ou l'aide artistique et technique des activités de radiodiffusion pirate. La station Mercure a dûment fermé ses portes le 1er août, mais il y a trois jours, la diffusion a repris, avec des annonces publicitaires de sociétés ouest-allemandes incluses dans les programmes. Hier, plusieurs membres du cabinet ministériel se sont réunis et ont demandé l'avis des conseillers juridiques du ministère des Affaires étrangères. Ceux-ci ont décidé qu'une action dans les eaux internationales était possible dans certaines circonstances, en particulier si un navire opérait sous un pavillon de complaisance. Une ordonnance du tribunal a été obtenue autorisant la saisie du Lucky Star, à moins qu'il ne puisse produire un certificat d'un pays qui n'est pas connu pour délivrer des immatriculations de complaisance. Bien qu'il ait été signalé que l'équipage n'a pu produire aucun document ce matin, il a été déclaré plus tard qu'en mai, le Lucky Star avait été enregistré comme guatémaltèque par le consulat guatémaltèque à Barcelone. Le propriétaire serait un guatémaltèque qui l'aurait affrété à un représentant de certains des intérêts financiers suisses derrière la station Mercure. Les documents du navire auraient été retrouvés à bord d'un autre navire de Radio Mercure, actuellement à quai à Flensburg, en Allemagne de l'Ouest. La police a déclaré ce soir que l'équipage du navire avait été libéré et qu'aucune charge n'avait été retenue contre lui. Le navire sera détenu jusqu'à ce que ses propriétaires produisent les documents requis. Mais la station ne reviendra jamais sur les ondes.
Thank you.
Comme pour s'assurer une protection par la notoriété, Radio Sid lance à la fin de l'été le club de ses auditeurs qui va rapidement compter plus de 10 000 membres. Radio Veronica fait la même chose en créant Vrienden van Veronica, le club des auditeurs de Radio Veronica. La station historique hollandaise n'a pour l'instant pas été inquiétée par le gouvernement. L'instabilité politique à cette époque à Amsterdam joue en sa faveur. Mais sa grande popularité auprès du public la met aussi à l'abri.
Wilt u meer weten over de reclamemogelijkheden via dit door duizenden teenagers beluisterde programma? Stelt u zich dan in verbinding met Radio Veronica, postbus 218 Hilversum. Telefoon 02950-10953. Dus 02950-10953. The Allisons, of Bob en John Allison, zoals ze in het gewone leven heten, doen het toch maar weer fantastisch, hè? Hun Are You Sure staat nog steeds hoog genoteerd en het ziet er niet naar uit dat er zo heel snel verandering in zal komen. Willen jullie nog eventjes het aantal stemmen weten dat Are You Sure op de derde plaats gekozen heeft? 2449.
Le 12 octobre 1962, Radio Antwerpen, la première station de radio offshore belge, débute des essais de transmission depuis le Eulenspiegel. Cet ancien navire de la marine française a d'abord discrètement séjourné dans le port d'Anvers, où il a été équipé d'un mât de transmission. Dans la même ville, des studios ont été créés pour préparer les premières émissions. Puis le bateau a jeté l'ancre dans les eaux internationales en face du port de Zeebrugge. Radio Antwerpen est né, ou plutôt ressuscité. L'histoire de cette station est unique. Elle fut légalement créée en 1922 par Georges de Calueux et émettait depuis la Terre. En mai 1940, dans la perspective plus que probable d'une occupation de la Belgique par les nazis, craignant que sa station ne soit réquisitionnée pour diffuser la propagande du Troisième Reich, Georges de Calueux décide d'arrêter les émissions et détruit l'émetteur. Mais secrètement, il fabrique un nouvel émetteur, comptant bien relancer sa station après la guerre. En 1945, effectivement, Radio Antwerpen reprend sporadiquement ses programmes. Mais à l'image de ce qui s'est passé dans d'autres pays, le gouvernement belge a instauré un monopole d'État sur la radiodiffusion. Et Radio Antwerpen est contrainte au silence le 31 août 1948, lorsque tout le matériel est saisi. Essayant de rester dans la légalité, Georges de Calueux fait plusieurs demandes d'attribution d'une fréquence, arguant de l'histoire de sa radio. Mais les autorités belges restent inflexibles et refusent l'attribution d'une autorisation. À l'image du phénomène qui touche d'autres pays du nord de l'Europe, Georges de Calueux fait l'acquisition d'un navire et après des essais de transmission le 12 octobre, les émissions régulières démarrent le 15.
Hier is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee, de zender waar u naar luistert. Vanuit Taverne van IJswijk te Antwerpen luisteren we naar het kwartet van Harry de Klerk. De presentatie geschiet door Rudy Witt. En als medewerkers hebben wij Jenny Durand, zangeres, Jos Marien aan de piano en accordeon, Bob de Boek in slagwerk, Rudy Witt, klarinet, sax en zang en de leider Harry de Klerk speelt vibrafoon en accordeon.
En novembre 1962, Radio Antwerpen, qui émettait jusqu'à présent en ondes moyennes, débute des émissions en ondes courtes. Certains rapports d'écoute montrent que les programmes sont reçus jusqu'au Canada. Mais l'aventure de la première radio offshore belge sera hélas brève. Début décembre, le Eulenspiegel est pris dans une tempête et son mât de transmission s'effondre. Les techniciens interviennent et les émissions reprennent. Mais le 13 décembre sera une date fatale pour Radio Antwerpen. Ce jour-là, à l'image de ce qui s'était passé quelques mois plus tôt en Scandinavie, le Parlement belge vote une loi interdisant aux citoyens de participer directement ou indirectement à une radio maritime. Le soir même, Georges de Calueux meurt sur la table d'opération dans un hôpital d'Anvers. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, le Eulenspiegel est à nouveau pris dans le déchaînement d'une tempête. L'équipage découvre alors qu'il y a une voie d'eau dans la coque et que l'une des antennes s'est effondrée. Le navire rompt son ancre et commence à dériver. Le 16 décembre, vers 15h, il était à environ 1 000 de Zeebrugge. Quatre membres d'équipage restèrent à bord alors qu'une tentative de remorquage débutait. Mais la météo se dégrada encore et le canot de sauvetage qui avait déjà permis de récupérer une partie de l'équipage tenta de sauver les quatre membres restant sur le navire émetteur, car leur situation devenait franchement critique. Une défaillance mécanique contraignit le canot à revenir vers la côte pendant que le câble reliant le Eulenspiegel au remorqueur se rompait sous la violence de la mer. Le remorqueur parvint toutefois à récupérer les quatre derniers membres de l'équipe présents sur le bateau, qui continua à dériver. Il s'échoua sur la plage de Katzand, près de la frontière néerlandaise. Aucune tentative de renflouement n'eut lieu, et durant les années qui suivirent, l'épave fut la proie des pillards et autres chasseurs de trésors. Le Eulenspiegel fut finalement dynamité en 1971.
Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
En ce début d'année 1963, il reste donc deux radios offshore sur les ondes, Radio Veronica et Radio Sid. En mai, le gouvernement suédois condamne 11 annonceurs qui avaient acheté de l'espace publicitaire sur la station de Britwadner. Elle-même comparaît pour la seconde fois en octobre devant un tribunal pour émission illégale d'un programme de radiodiffusion. Mais la station continue à émettre.
Malmö bil radio frågar. Har ni radio i bilen? Om inte, skaffa er en. Kan ni ta in program 2 eller Radio Syd på er bilradio? Om inte, skaffa en ny. Krånglar er bilradio? Se då till att den fungerar. Malmö bilradio har drive-in service och byter ut er gamla bilradio mot en ny i en handvändning. Malmö bilradio, Rörsjögatan 10. Specialisten på bilradio har korttidsservice för er krånglande bilradio. Malmö bilradio, Rörsjögatan 10. Specialisten på bilradio har betalningsvillkor som knappast märks i er budget.
Les pionniers de ces premières années de radio offshore ont été des défricheurs, de véritables aventuriers pour certains. Et l'audience de leur radio montra que dès le début, le phénomène n'était pas marginal. Pourtant, il faudra attendre la première moitié des années 60 pour qu'une radio et son fondateur entrent véritablement dans la légende. Né à Dublin, le 21 mai 1940, Audogan Ronan O'Reilly, dont le grand-père Michael O'Reilly fut une figure de la lutte pour l'indépendance de l'Irlande, s'installe à Londres dès l'âge de 17 ans. Il s'intéresse d'abord au théâtre, prend des cours et va même fonder une école de théâtre avec deux de ses amis, Christopher Moore et Nicky Hamdy Dot, alias Simon Dee, qui seront des figures importantes de la future radio offshore qu'O'Reilly va fonder. Il va fréquenter le milieu des clubs londoniens et va lui-même très vite co-diriger The Sun, situé à Soho. Associé à Honagh Huggard, lui aussi irlandais, ils vont organiser des concerts pour de jeunes artistes encore inconnus, parmi lesquels The Blues Incorporated, dans lesquels jouaient les futurs Rolling Stones, Mick Jagger et Charlie Watts. Ronan O'Reilly tente de faire la promotion de ces concerts. Mais la vénérable BBC et les maisons de disques restent très frileuses face à ces nouveaux artistes. Thank you. Frustré par le peu d'enthousiasme que les médias et les compagnies de disques lui témoignent, Ronan O'Reilly ne s'avoue pas vaincu et continue à défendre ses jeunes musiciens. Un jour, l'Irlandais visite les bureaux de Merit Music, une société d'édition musicale dirigée par un certain Alan Crawford. Ce dernier travaille sur le projet d'une radio offshore au large des côtes britanniques. Au début du mois de juillet 62, il a tenté de racheter le Magda Maria de Radio Nord, contrainte au silence par une loi scandinave anti-radio offshore. Crawford rencontre quelques difficultés à trouver des investisseurs, et même si Ronan O'Reilly n'a pas les moyens d'investir dans le projet Atlanta, c'est son nom, il est immédiatement séduit par l'idée. Son père est propriétaire de Greynor, un port privé situé en Irlande, et le jeune O'Reilly comprend immédiatement l'intérêt que ce port pourrait avoir. Crawford est invité à Greynor, et à cette occasion, il expose en détail le projet Atlanta. Les contacts avec la famille O'Reilly sont maintenant établis. Le rachat du Magda Maria, devenu Mi Amigo, reste un obstacle important. Et en juin 1963, Ronan O'Reilly se rend au Texas pour tenter de débloquer la situation. La plupart des équipements de Radio Nord ont été retirés du Mi Amigo. Et de retour en Grande-Bretagne, O'Reilly pense que le projet Atlanta prendra du temps à se concrétiser, même si Alan Crawford souhaite persévérer. L'Irlandais est alors convaincu qu'il peut mener à bien son propre projet de radio offshore beaucoup plus rapidement que celui de Crawford. Aidé par ses amis Christopher Moore, Simon Dee et Honag Huggard, O'Reilly rencontre assez vite des investisseurs potentiels. Il peut rapidement faire l'acquisition d'un bateau, le Fredericia, un ancien ferry danois. Alan Crawford parvient lui aussi, avant la fin de l'année 63, à louer le Mi Amigo. Les deux projets cheminent donc de façon conjointe. Et les lieux de diffusion furent répartis, le sud-est de l'Angleterre pour l'équipe d'Alan Crawford et le nord pour celle d'O'Reilly. Alan Crawford mit à disposition de l'équipe d'O'Reilly les studios qu'il avait déjà créés en vue d'enregistrer des programmes. Et en échange, il put disposer des installations du port de Greynor. Le 27 février 1964, Ronan O'Reilly et plusieurs actionnaires dont Jocelyn Stevens, propriétaire du magazine Queen, fondèrent la société Planet Production Limited. À peine un mois plus tard, la première radio offshore britannique allait débarquer sur les ondes et écrire une page de l'histoire de la radiodiffusion. C'était les DJ de la haute mer, une émission proposée par Olivier Delaporte.